Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens? Quel hémisphère?
Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, une heure de plus à Paris.
RFI Midi.
Et à Davos, bonjour Clotilde Dumay.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Une vingtaine de signatures de dirigeants prêts à faire partie du Conseil de la paix de Donald Trump. Le président américain lance sa nouvelle instance à Davos, mais promis, pas question de concurrencer l'ONU. On verra dans un instant s'il faut le croire. Des milliers de Kurdes contraints de fuir face à l'avancée de l'armée syrienne. Témoignage dans ce journal. Journée de deuil national en Australie, plus d'un mois après l'attentat antisémite qui a fait 15 victimes, correspondance à suivre. Et puis débat chaotique au Sénat en France concernant le texte sur la fin de vie. Les principaux articles prévoyant une aide à mourir ont été rejetés. Explication dans ce journal.
Le président argentin et le premier ministre hongrois n'ont pas manqué la cérémonie de signature.
Javier Milei et Viktor Orban présents à Davos, en Suisse, pour ratifier la charte fondatrice du Conseil de la paix voulue par Donald Trump. Le président américain, entouré donc de certains de ses soutiens et d'une vingtaine de dirigeants pour lancer cette nouvelle instance qui devait initialement superviser la reconstruction de la bande de Gaza, mais que Donald Trump veut finalement élargir à plusieurs pays, tout en continuant, promet-il, de travailler en coordination avec les Nations Unies.
Je pense qu'on peut étendre l'action du Conseil de la paix à d'autres dossiers. Une fois que nous aurons réussi à Gaza, nous pourrons faire à peu près ce que nous voulons et nous le ferons en coordination avec les Nations Unies. Vous savez, j'ai toujours dit que l'ONU avait un énorme potentiel, mais elle ne l'a pas utilisé. À propos des 8 guerres auxquelles j'ai mis un terme, je n'ai jamais parlé à l'ONU. Et vous pourriez penser que j'aurais dû, vous pourriez penser que l'ONU aurait pu mettre fin à ces 8 guerres, mais elle n'a pas pu. Elle a essayé, j'imagine, pour certaines guerres, mais elle n'a pas fait assez d'efforts. Mais le potentiel des Nations Unies est énorme. Et je pense que la combinaison de l'ONU avec le Conseil de la paix pourrait être quelque chose de très très unique pour le monde.
Voilà, Donald Trump qui promet donc de travailler avec les Nations Unies. Et pourtant, ce Conseil de la paix, Joris Zilberman, ressemble plutôt à une nouvelle instance concurrente.
Et oui, et d'abord, il n'y a qu'à lire la charte fondatrice. L'ONU a échoué et il faut s'en écarter. Donald Trump a donc tenu à Davos un double discours, son Conseil de la paix. Il ne l'a pas dit à la tribune aujourd'hui, mais lui seul en est le président. Pour un mandat illimité, il pourra seul inviter ou révoquer d'autres dirigeants. Alors, on a vu sur les images cette longue scène de signature avec 18 chefs d'État ou de gouvernement en tout, arrivant deux par deux pour signer la charte avec Trump au milieu. Pas de représentants de la Russie, du Royaume-Uni, de la France ni de la Chine. C'est un organe resserré de dirigeants fidèles ou qui soutiennent Trump. Et surtout, pas un mot sur les principes de ce conseil de la paix, s'il y en a, sur sa conception exacte de la paix.
Les explications de Joris Zilberman.
Et on y reviendra dans un quart d'heure avec notre invité pour essayer de comprendre qui peut y gagner quoi et la manière donc dont pourrait fonctionner ce conseil.
Donald Trump, ses déclarations, ses faits et gestes scrutés de près par les Européens qui s'expriment eux aussi à Davos. Et ce matin, c'était au tour du chancelier allemand Pascal Thibault. Vous êtes en direct de Berlin. D'où vous avez suivi cette prise de parole et la réponse de Friedrich Merz aux dernières déclarations de Donald Trump?
Oui, effectivement, et le chancelier qui prenait la parole en début de matinée à Davos s'est montré plutôt satisfait des derniers rebondissements. Il faut rappeler que l'Allemagne faisait partie des 8 États européens qui étaient menacés par Washington de taxes douanières supplémentaires à compter du 1er février. Une perspective qui inquiétait Berlin, dont l'économie exportatrice aurait souffert. Friedrich Merz, plus dans la retenue sur la réponse à donner par l'Europe à Washington que d'autres partenaires, comme Emmanuel Macron par exemple, s'est donc montré ce matin satisfait de la disparition de cette menace. Le chancelier a également salué la promesse de Donald Trump de ne pas recourir à la force contre le Groenland.
Nous soutenons des discussions entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis pour aboutir à une plus étroite coopération entre alliés dans la zone arctique. C'est une bonne chose que nous avancions dans cette direction, car toute menace pour acquérir une partie de l'Europe par la force serait inacceptable.
Friedrich Merz a par ailleurs à nouveau livré un plaidoyer en faveur des relations transatlantiques et dénoncé le risque d'un monde fondé sur la puissance alors que les États-Unis réorganisent leur politique étrangère, que la Russie envahit l'Ukraine et que la Chine s'affirme comme un pouvoir économique majeur. Le chancelier allemand a rappelé que le Troisième Reich nazi avait, par sa politique de puissance, entraîné le monde dans l'abîme.
Pascal Thibault, depuis Berlin, le chef de l'OTAN de son côté précise que l'accord cadre annoncé hier avec Donald Trump prévoit un renforcement de la présence de l'OTAN dans l'Arctique et que les discussions ont pour objectif de priver la Russie et la Chine d'un accès au Groenland. Concernant la Russie, justement, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est à Moscou pour parler à Vladimir Poutine. Il ne reste selon lui qu'un point à régler dans les négociations pour mettre fin à presque 4 ans de combat entre l'Ukraine et la Russie. Donald Trump, lui, rencontre à Davos actuellement Volodymyr Zelensky.
Et concernant un autre dossier, Donald Trump assure que les États-Unis vont entamer des discussions avec l'Iran.
Après la répression meurtrière de près d'un mois de manifestations contre la République islamique, un premier bilan officiel a d'ailleurs été communiqué. La télévision d'État iranienne assure que 3117 personnes ont été tuées, dont une majorité de membres des forces de sécurité. Bilan très éloigné de celui notamment de l'ONG Iran Human Rights, qui évoque jusqu'à 25 000 victimes potentielles. Difficile de documenter pour le moment précisément cette répression, notamment en raison de la coupure d'Internet, mais la menace d'exécution de manifestants plane toujours à Blajounaïdi. D'après l'ONG Engao, basée en Norvège, la peine de mort a été prononcée contre un manifestant kurde.
Oui, la famille de Salah Youssefi, originaire de la province de Kermanshah, a informé l'ONG que le jeune homme avait en quelques jours été arrêté puis jugé, sans la moindre convocation en bonne et due forme, sans le moindre document officiel. Et de plus, malgré les annonces des autorités judiciaires de rendre publics ces procès, aucune annonce n'a été faite. La famille a seulement reçu une notification verbale venue d'un membre du corps des gardiens de la Révolution. La peine de mort a été prononcée, selon la famille, car le jeune homme, propriétaire d'une boutique de téléphone au nord de Téhéran, est accusé de « muharebe », guerre contre Dieu. Cela prive la famille d'une procédure régulière, notamment le droit de faire appel à un avocat indépendant. C'est en fait une arme politique utilisée par le régime iranien, notamment contre les minorités, selon les ONG des droits humains. D'ailleurs, la famille de Salah Youssefi a été informée qu'il avait des liens étroits avec Israël et les États-Unis. Lundi dernier, les autorités ont donné 3 jours à ceux qu'elle appelle les émeutiers pour se livrer, leur promettant plus de clémence, tandis que les autres seraient punis de manière décisive. Des procédures judiciaires accélérées, opaques, auxquelles Washington avait prévenu de répondre si elles aboutissaient à l'exécution des manifestants.
À Blajounaïdi, plusieurs violations du cessez-le-feu dans le nord-est de la Syrie. Le pouvoir et les forces kurdes s'accusent mutuellement d'attaques alors que les deux parties sont censées négocier ce que les autorités de Damas appellent l'intégration pacifique des provinces kurdes à la Syrie. Alors pour bien comprendre, pendant la guerre civile, une coalition dominée par les Kurdes avait établi une administration autonome dans le nord-est du pays. Les nouvelles autorités de Damas entendent donc désormais exercer leur contrôle sur ce territoire. Elles ont entamé début janvier des opérations militaires pour déloger cette coalition dominée par les Kurdes. Des combats qui ont entraîné de nombreux déplacements de civils. Des milliers de Kurdes affluent dans l'une des rares zones encore contrôlées par les forces autonomistes dans la région de Kamishli, près des frontières turques et irakiennes. Explication de Guilhem Delteil.
Cheikh Maksoud, Ashrafieh, Tabqa, Raqqa, Asakieh, cette femme kurde qui tient à rester anonyme et souhaite se faire appeler Rojava, du nom kurde de la province, égrène les villes, les quartiers, fuient par une partie de leurs habitants. Beaucoup ont déjà été repris par les forces de Damas, d'autres sont très proches de la ligne de front désormais, et Kamishli, l'un des derniers bastions tenus par les forces démocratiques syriennes, fait figure de dernier refuge possible.
Dans toutes les écoles de Kamishli, il y a des familles de déplacés, même les mosquées. La plupart des gens sont aussi installés dans les stades. Il n'y a plus de lieux disponibles, donc certains restent dans leurs voitures avec toutes leurs affaires entassées sur eux dans la rue.
Cette fuite, Rojava l'a elle-même vécue il y a 6 ans. Elle a dû fuir sa maison face à l'avancée de troupes soutenues par la Turquie. Aujourd'hui, à Kamishli, la solidarité est forte avec les nouveaux arrivants, mais le flux est trop important, déplore-t-elle.
Nous qui sommes là actuellement à Kamishli, nous essayons de fournir de l'aide avec les habitants et les organisations humanitaires, mais le nombre de personnes est tellement élevé qu'on n'arrive pas à suivre.
Les besoins humanitaires sont énormes. Ces derniers jours, Kamishli a été touché par de fortes pluies et des températures négatives ont été relevées.
Explication de Guilhem Deltel.
Drapeaux en berne en Australie.
Jour de deuil national, plus d'un mois après l'attentat antisémite sur la plage de Bondi à Sydney, où 15 bougies ont été allumées à l'opéra lors d'une soirée d'hommage aux 15 victimes. Correspondance de Grégory Pless.
Une minute de silence, un hommage national, mais aussi des excuses. Celle du Premier ministre Anthony Albanese qui les a exprimées dès les premières secondes de son intervention.
Nous chérissons la promesse d'une Australie refuge, sans danger. Mais malheureusement, cette promesse n'a pas été respectée. Vous étiez venu célébrer le Festival des Lumières et de la Liberté et vous avez été reçu par la violence et la haine. Je suis profondément désolé que nous n'ayons pas pu protéger vos proches de ce mal.
Un acte de contrition de la part d'un chef de gouvernement qui n'a cessé d'être critiqué depuis le 14 décembre dernier, car il n'aurait pas suffisamment pris au sérieux la montée de l'antisémitisme en Australie. Cette semaine, il a pourtant apporté une réponse politique à cet attentat, avec d'une part une réforme de la législation sur le port d'armes et un programme de rachat d'armes à feu, mais aussi la mise en place de nouvelles mesures pénales pour réprimer les appels à la haine ou à la violence. Mais ce texte de loi ne plaît à personne, les uns le trouvant liberticide, tandis que d'autres jugent au contraire qu'il ne sera d'aucune efficacité. Ce que les sondages montrent, eux, c'est que la popularité du Premier ministre est en chute libre, alors que celle de l'extrême droite monte en flèche. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Aux Philippines, la colère contre le président ne retombe pas. Un groupe de citoyens a déposé aujourd'hui une plainte en destitution contre Ferdinand Marcos Jr. Les plaignants accusent le chef d'État d'être à la tête d'un vaste système de corruption qui a détourné des milliards de dollars destinés initialement à des infrastructures pour contrôler des inondations dans ce pays. Stéphanie Schuller, parmi les plus exposés aux effets du changement climatique.
Oui, et pourtant, c'est Ferdinand Marcos Jr. lui-même qui révèle juillet dernier l'existence de projets fantômes, des digues et d'autres constructions censées protéger les Philippines de crues soudaines ou d'inondations pour un coût total estimé à l'équivalent de 2 milliards d'euros, 18 milliards même, estime Greenpeace. Seulement voilà, cet argent se trouve dans les poches de hauts responsables politiques et d'entrepreneurs, tous proches du chef d'État. Les projets, eux, sont soit de piètre qualité, soit n'existent tout simplement pas. L'automne dernier, des manifestations monstre éclate donc, et quand en novembre, deux super typhons ravagent l'archipel et font 250 morts et plus d'1,5 million de déplacés qui n'ont plus rien, bon nombre de Philippins qualifient leur président d'assassin. La plainte en destitution déposée aujourd'hui par des membres de la société civile accuse Ferdinand Marcos Jr. d'avoir institutionnalisé un système de corruption au profit de ses proches et d'avoir lui-même demandé des pots de vin. Si cette plainte n'a que peu de chances d'aboutir, le chef d'État bénéficie d'une large majorité au Parlement. Elle est un nouveau signe de la défiance de la population à son égard.
Stéphanie Schuller, c'est une première dans l'Union européenne. L'électricité solaire ou éolienne a devancé l'an dernier celle d'origine fossile. 30% d'électricité produite par le soleil et le vent contre 29% par les énergies fossiles. C'est ce qu'indique un rapport annuel du think tank Ember. Dans le même temps, la production d'électricité issue des centrales charbon a atteint un nouveau plancher historique à moins de 10%.
À 13h13 à Paris, en France, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu hier au Sénat.
Pendant l'examen du texte très attendu sur la fin de vie, il prévoyait initialement un accès à l'euthanasie ou au suicide assisté pour certains malades, mais il a finalement, Raphaël Delvolvé, été vidé de sa substance.
L'article 4 prévoyant les dispositifs d'aide à mourir a été rejeté hier soir par un attelage d'élus de droite, du centre et de gauche. Sur ce débat sociétal majeur, chacun est libre de ses votes et ces 144 sénateurs ne se sont pas opposés pour les mêmes raisons. Certains parce qu'ils sont contre le principe même de l'euthanasie et d'autres, surtout à gauche, parce que mécontents des modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale, les sénateurs restreignant l'aide active à mourir aux seuls patients en phase terminale. Raison contradictoire et grosse conséquence, le texte dépouillé de sa principale réforme acte désormais deux positions diamétralement opposées entre Sénat et Assemblée nationale. Un scénario imaginé par un certain Emmanuel Macron, le président qui fait du texte une priorité, envisage un recours au référendum en cas d'enlisement au Parlement. Ce chemin est désormais emprunté. Il l'aurait été de façon plus nette encore si, fort de cet échec, les débats avaient été interrompus. Mais la ministre de la Santé demande de les poursuivre pour permettre la navette et laisser une chance à ce long débat parlementaire.
Et le texte devrait justement arriver à l'Assemblée mi-février. Une dégringolade de plus de 30% pour le titre Ubisoft à la Bourse de Paris. Le géant français des jeux vidéo subit les conséquences de son annonce hier de l'annulation du développement de 6 jeux vidéo, dont le prochain Prince of Persia. La direction d'Ubisoft prévoit aussi une perte opérationnelle d'un milliard d'euros sur l'exercice 2025-2026.
Merci Clotilde Dumais. Midi et quart en temps universel. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
On commence par parler foot. La semaine européenne s'achève ce soir avec la 7e journée de Ligue Europa. Les 3 clubs français en lice vont tâcher de faire un peu mieux que leurs homologues en Ligue des Champions.
Oui, autrement dit, tout demi-somme de gaz carboné, réchauffement climatique. Nous avons su préserver les équilibres entre l'homme et la nature. C'est la philosophie de notre culture. Ils ont créé le déséquilibre. Les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, les donneurs de leçons, les donneurs de leçons. Polluent la terre, la mer et les airs, oui, l'atmosphère. Polluent la terre, la mer et les airs, l'atmosphère, oui.
Faire du piano, un mec à poil dans son frigo. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête.
Le mix de toute la culture, c'est sur le 99.1.
Radio HDR 99.1, le mix des cultures.
Bad mind we do it daily. Girl, my sweater than a strawberry jelly. Wine up your bumper, wine and pon your belly. With it, come reach up and reminisce in your belly.
HDR 99.1 HDR.
C'est sur le 99.1.
Le mix.
Vous êtes une femme de 25 à 65 ans? Ce message vous concerne. Chaque année, plus de 3000 cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès d'environ 800 femmes. Pourtant, grâce au dépistage régulier, 90% de ces cancers pourraient être évités. Entre 25 et 65 ans, faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison.
Parlez-en à votre médecin ou à une sage-femme. Informez-vous sur jefaismondépistage.cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années jazz,
l'émission présentée par Michel Jules, vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h, sur Radio HDR,
laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
Echo Out Session sur Radio HDR le vendredi à 23h, en rediff le lundi à 2h.
DJ